Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est que le lien traumatique et comment j'ai développé le mien. C'est un concept qui est très important à comprendre si on veut s'en sortir, si on veut réaliser dans quelle situation on est et trouver un plan pour s'en sortir. Alors, le terme d'abord. Le lien traumatique, ça signifie pas que c'est un lien qui est de nature traumatique. C'est pas parce qu'on est lié à quelqu'un qu'on est en traumatisme. Ça veut dire que c'est un lien qui s'est créé dans le traumatisme. Oui, c'est le traumatisme qui crée le lien. Mais comment est-ce qu'on peut développer quelque chose comme ça? On a connu des traumatismes, donc on se lie à une personne. C'est bizarre. Et je vais aussi dire quelles sont les conséquences d'être lié à une personne de cette façon. Je vais essayer de vous l'expliquer. Je parle de ça parce que je pense que les gens qui sont en relation avec un narcissique développent quasi forcément un lien traumatique parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour comprendre pourquoi vous êtes resté. On dit souvent qu'il faut 7 tentatives pour une personne en relation avec un narcissique pour partir. Dans mon cas, c'était vrai. Et la seule explication à mon blocage et à ma cette difficulté de partir, c'était ça, parce que j'avais développé un lien traumatique. Donc, on va commencer par parler des manifestations d'un tel lien. Vous avez besoin de savoir si vous êtes dans cette situation ou pas. Donc, comment vous savez comment ça se manifeste, comment vous pouvez le voir, vous qui êtes dedans? Pour moi, ça a été extrêmement dur d'avoir ce recul et de voir que c'était ça. Il a fallu que je le lise noir sur blanc, c'était vraiment. Si quelqu'un me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Pour moi, le signe majeur, c'est l'impossibilité psychique de quitter la personne à laquelle on est lié. C'est ça qui m'a décidé à chercher qu'est-ce qui se passe, vraiment. Tu sais pas si tu l'aimes ou si tu la détestes. Hein. J'avais l'impression de ressentir les deux. Alors je fais une petite parenthèse, je fais des généralisations, alors des fois j'utilise tu ou on, ou même si je dis je, vous pouvez considérer ça comme une généralisation, parce que ce que je vous raconte sur moi est répétable à l'infini chez tout le monde. Hein. Je fais pas ça pour raconter mon histoire de toute façon, si je raconte mon histoire c'est pour que quelqu'un qui tombe dessus puisse s'y identifier. Donc je dis tu, c'est une généralisation, je dis on, c'est aussi une généralisation. Quand je m'adresse à vous, je dis vous. Bon, bref, vous comprenez. Le blocage dans lequel on est, ça se voit aussi dans l'extrême difficulté de quitter la personne, même si son comportement paraît intolérable. Parce que bon, des fois, on peut avoir des problèmes à quitter quelqu'un parce que, bon, je sais pas, on veut pas le blesser, etc. C'est pas du tout ça dont je parle aujourd'hui. C'est que vous êtes avec une personne, et si vous étiez avec votre esprit clair et logique, vous vous diriez, ce qu'elle fait est intolérable et injuste, pas normal, je considère que c'est mal, je considère que je ne ferai pas ça moi. Pourtant, je peux pas arrêter. Il faut que j'y retourne. Je peux pas la quitter. C'est peut-être une personne dont le comportement envers toi paraît immoral. Elle fait des choses que toi, tu te permettrais jamais de faire. Et tu comprends pas pourquoi tu tolères ça. Tu tolères de l'abus émotionnel, des insultes, des menaces, du mépris, des humiliations parfois publiques, la critique permanente. Une insatisfaction chronique et permanente, un caractère irascible et une humeur complètement imprévisible. On a toléré ça, Alors qu'on ne le tolérerait pas d'un ami, d'une personne extérieure, ça serait vite, ok, cette personne n'est pas normale, je vais m'en écarter très très vite. Mais là, on est en couple avec cette personne ou on a un autre lien avec cette personne et on ne peut pas briser le lien. Pourquoi? Peut-être que des personnes extérieures ont dit que cette personne était mauvaise pour toi, mais tu penses qu'ils ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas bien la situation, tu vas toujours trouver une excuse. Ils ont pas vécu tout ce que j'ai vécu avec elle, ils comprennent pas bien, ils sont pas à la maison avec. Tu penses pouvoir voir le bon côté de cette personne et que les autres ne voient pas le bon côté. Moi, c'était ça, je me disais, mais oui, elle a un cœur généreux finalement, et les autres, les gens qui me disent, attends, il y a peut-être un problème là dans ta relation. Ou juste qu'ils se taisent parce que je sentais un malaise des fois. Les gens ne disaient rien et puis je pensais bien qu'ils pensaient quelque chose. Mais je me disais, bon, ils verront plus tard, un jour, ils comprendront, ils verront que je suis heureux, ils verront qu'elle est bien, quoi. Aussi, on pense que sa relation est unique, précieuse, hein, et tu adhères à l'idée qu'il faut se battre pour l'amour. Ça, c'est une idée qui est martelée par la culture. C'est martelé dans notre tête. On nous explique que tout peut se résoudre si on donne de l'amour. Je sais pas d'où vient cette idée. En tout cas, elle est vraiment fausse et dangereuse dans le cas des relations narcissiques. L'amour que vous donnez, il va juste empirer la situation. On nous martèle la tête, on nous dit que sans amour, la vie n'a pas de sens. Vous voyez, alors ça. Surtout si vous êtes nourri de séries romantiques ou quelque chose comme ça, c'est une idée que vous avez absorbée. La conclusion pour la personne qui est en relation toxique, sans le savoir, c'est qu'elle doit tout faire pour sauver la relation et atteindre le bonheur conjugal. La conclusion de ces idées qu'on nous impose. Hein. Le couple, c'est bien, l'amour, c'est nécessaire, une vie sans amour, c'est une vie ratée, et tout peut se résoudre par l'amour. Ah oui, et quand vous êtes en relation avec une narcissique, c'est les idées qui vous détruisent, ça. Ça ne s'applique pas au narcissique, non? Entre deux personnes raisonnables et équilibrées, d'accord, ouais, tout peut se résoudre par de l'amour, de la compassion, de la patience. Si vous montrez de l'amour, de la compassion et de la patience pour une narcissique, vous allez vous faire bouffer l'âme jusqu'à ce qu'il en reste un trognon à jeter. Dans une relation narcissique, ça signifie dépenser toute son énergie mentale pour tenter de la calmer, satisfaire, rassurer. Calmer, satisfaire, rassurer une personne qui est absolument impossible à satisfaire, rassurer et calmer. Vous voyez? Donc c'est une espèce d'exercice ironique de destruction personnelle, quoi. Ça signifie penser que toutes ces critiques sont peut-être valides. Si vous êtes dans cet état d'esprit, on vous critique en permanence et vous dites, bon, c'est peut-être vrai, que l'humiliation est peut-être méritée. Moi, je me disais, pourquoi est-ce que la personne que j'aime, à qui j'offre tout, est comme ça avec moi? C'est moi qui dois avoir un problème, je dois pas être suffisant. Il faut que je... Surtout, je me disais, moi, bon, tu t'es amusé toute ta vie, tu as fait ce que tu voulais, tu as voyagé, maintenant, il faut se stabiliser, tu dois consacrer ta vie à quelqu'un maintenant. Oui, à quelqu'un d'équilibré, pas à quelqu'un de déséquilibré. Le sentiment de ne pas suffire, c'est un des pires aspects du lien traumatique. Comme la personne difficile ou toxique est impossible à satisfaire, les objectifs sont constamment repoussés, vous comprenez? Si vous faites quelque chose et vous avez le sentiment que ça va lui faire plaisir, là elle va être satisfaite, elle va être heureuse, Vous le faites et puis, ah non, c'était pas assez finalement, il y a un nouvel objectif. C'est à devenir fou, quoi. Tu penses avoir fait de quelque chose de superbe pour le couple, un beau geste ou même un effort sur une longue période, mais le moment de le résultat positif n'arrive jamais. On exige toujours plus de toi. Tu espérais de la reconnaissance, peut-être, hein? Comme un coureur qui pense, il voit le panneau à 1 km, il court pendant 1 km, et là il y a un nouveau panneau à 1 km. Oui. Normalement, si tu te sens comme ça avec quelqu'un, je pense que une personne, on a tous des instincts naturels qui poussent à ne pas aimer une personne qu'on considère mauvaise et qui nous poussent à garder des distances. Mais là, tu peux pas partir. Tu te sens complètement bloqué et l'idée de la quitter te fait même physiquement souffrir. Je dis pas ça métaphoriquement, c'est il y a vraiment une douleur physique véritable, de douleur abdominale, thoracique, vous voyez, palpitations cardiaques. Moi, une fois, je sais pas ce que c'était exactement, mais j'ai un jour où j'avais le sentiment que j'allais la perdre, je suis tombé par terre, une espèce de crise de paralysie, et j'avais des fourmis partout, la respiration difficile, vous voyez, c'était une espèce de choc physique comme ça. Une forme de paralysie, je sais pas. Si ça vous fait penser, là, vous écoutez ça, vous dites, ça fait penser à ce qu'un drogué ou un alcoolique vit. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est la même chose. Le lien traumatique, c'est une addiction mentale à une autre personne. Vraiment, j'utilise le mot addiction avec raison. C'est les mêmes mécanismes chimiques sont en jeu dans le cerveau. Je l'ai. Encore une fois, je répète, je n'invente pas ça. Je suis documenté, je répète ce que j'ai lu. Hein. Il n'y a rien de mes propres suppositions ou conclusions là-dedans. Hein. C'est tout du travail de perroquet ce que je fais là. Je refais juste mon interprétation, mais ça, c'est des choses vérifiées par la recherche. L'attachement traumatique provoque les mêmes échanges dans notre cerveau, échanges chimiques, même mécanismes, qu'une addiction à une substance. Pensez-y, qu'est-ce que c'est un drogué, dans le fond? C'est quelqu'un qui souffre constamment. Pour lui ou elle, voir la réalité telle qu'elle est, ça le fait souffrir. Donc quand il prend une substance, il a une charge de plaisir, finalement. Et puis en sevrage, après avoir pris la drogue, dans la phase de gueule de bois, disons, il se met à nouveau à souffrir. Donc il prend une autre dose, et ça sans fin. C'est continu. Une dose, plaisir, sevrage, souffrance. C'est des sensations qui oscillent constamment entre bonheur et malheur, plaisir et souffrance, jouissance et douleur. C'est ça qui fait apparaître la dépendance. Ce voyage constant entre le bonheur, le plaisir et la souffrance. Votre cerveau n'a plus de stabilité. Il n'y a qu'une vague permanente, voyez, comme dans la mer, les creux et les bosses des vagues, entre plaisir et douleur. Et c'est impossible de ramener le calme plat. Il y a une région de notre cerveau qui gère ça, le plaisir et la douleur. C'est géré par la même zone du cerveau, le même mécanisme. Donc, quand on a du plaisir, ça cache la souffrance. Et inversement. Et il y a forcément l'un des deux qui domine, vous voyez? C'est peut-être pour ça que si on a mal à la tête, si on a une douleur quelque part, un massage, ça fait du bien, parce que ça détourne la souffrance par un plaisir, quelque chose comme ça. Quand on est le drogué, donc une personne équilibrée a une réaction au plaisir Il y a un pic de plaisir et puis ça redescend vers une normalité. Alors qu'une personne qui a une addiction a un pic de plaisir et c'est suivi par une descente dans la souffrance. Et la personne est habituée à cette vague constante, des hauts pics de plaisir, des très bas pics de souffrance. Donc, ça cause une impossibilité de décider, trancher, savoir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on aime et on déteste à la fois. Pensons à ce que c'est que la nature d'une relation narcissique. Et comment on peut le mettre en relation à ça avec l'addiction aux substances? C'est la chose la plus frustrante, une relation narcissique. Vous avez l'humeur instable du narcissique qui fait que tu sais jamais sur quel pied danser. Un jour, on est récompensé, le lendemain, on est puni sans raison. Pour la même chose, vous voyez? Vous faites quelque chose et vous savez pas quel sera le résultat. Est-ce que ça sera un bon moment? Est-ce que ça sera une journée pourrie? Donc on est toujours. Moi j'étais toujours dans cette attente de la réaction imprévisible. Je savais pas ce qui allait se passer. Est-ce que la bombe va me tomber sur la gueule ou est-ce que je vais avoir un rayon de soleil? Les épisodes de rage, ils sont suivis par des bons moments, toujours. La dépréciation par une petite valorisation. Ou la violence physique par du sexe. Il y a toujours le narcissique, la narcissique vous donnera toujours des bons moments parce que elle sait bien que s'il n'y a que des mauvais moments, c'est pas possible. Il y aura toujours les bons moments. Et il faut pas se raccrocher à ces bons moments. Ils sont inévitables, c'est dans la stratégie pour vous garder. À cause de cette personne, vous vivez la même chose qu'une personne dépendante aux substances chimiques. C'est en permanence haut, bas, voyez, comme une montagne russe. Ah, aujourd'hui elle est heureuse, c'est formidable, on passe une bonne journée, le lendemain, journée horrible, gueulante toute la journée. Souffrance, plaisir, souffrance, plaisir. Exactement comme l'ivresse suivie de la gueule de bois, ivresse, gueule de bois, de l'alcoolique. La conséquence de ça sur ta façon de penser, c'est une complète confusion. Tu te sens perdu. Moi, je me sentais comme ça. Je me sentais perdu. Je ne savais pas quoi décider. On pardonne beaucoup trop. On va pardonner des choses qu'on considère impardonnables. Et ton esprit est scindé en deux voies contradictoires. Ces deux voix qui te disent en permanence des choses incompatibles. Et c'est impossible de savoir laquelle des deux a raison. Un jour, pendant que j'étais dans la relation, j'ai parlé avec une personne proche et j'ai décrit ça en lui disant que je me sentais comme en autopilote, vous voyez? Pilote automatique. J'avais l'impression que ma vie avançait sans que je puisse rien en décider. J'étais désarmé, les jours passaient et puis c'était juste le jour finissait et c'était ah voilà, le jour est fini, je vais pouvoir dormir, j'ai eu mes luttes de la journée, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, mais la journée est finie, ouf, j'ai survécu un jour de plus et c'est tout. Et on verra ce qui se passe demain, mais je sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce que ça sera une catastrophe ou est-ce que ça sera un jour merveilleux? J'en ai aucune idée. Cette incapacité de décider, d'être comme ça en pilote automatique et de laisser sa vie passer sans pouvoir prendre de décision, est-ce que je la quitte, est-ce que je reste? Ça s'appelle la dissonance cognitive. Donc, vous comprenez l'idée, il y a deux sons de cloche dans votre tête qui ne s'accordent pas. Ils sont dissonants. Comme en musique, deux notes qui vont pas bien ensemble. Et vous ne pouvez pas savoir laquelle des deux notes est juste. Il y a toujours ces deux voix. Vous savez, dans les dessins animés, on dessine souvent un personnage qui est tiraillé entre deux décisions, entre une bonne décision et une mauvaise décision. Il a souvent un petit ange et un petit diable sur chaque épaule qui lui souffle des choses différentes dans l'oreille. C'est un peu ça, sauf qu'il n'y a pas de bien et de mal. Alors, on peut imaginer que j'avais deux gnomes ou deux lutins sur chaque épaule, vous voyez, mais il n'y en a pas un qui est bon ou qui est mauvais. Il y en a un qui est vert et l'autre violet, je sais pas. Et les deux, ils disent des choses raisonnables. Et c'est impossible de savoir. Ces deux lutins me racontaient ils avaient chacun une version de l'histoire. Et les deux me paraissaient complètement raisonnables. Les deux étaient corrects, mais sans trop choquer complètement. C'était illogique. C'est ça, une dissonance cognitive. Vous ne pouvez pas apprécier et juger une situation parce que votre cerveau est tranché en deux, comme une espèce de schisme entre deux parties de votre cerveau et deux idées qui se rencontrent sans se concilier, une incompatibilité comme ça. D'où l'existence du lien traumatique. Il est né comme ça dans les hauts et les bas d'une relation toxique avec une personne qui est sentimentalement instable, manipulatrice, contrôleuse, et qui est pathologiquement insatisfaite. De vivre avec cette personne, vous avez eu ses hauts et ses bas, et ses hauts et ses bas, et il y a une addiction à cette montagne russe. Le lien traumatique, il va dans un sens, hein. Ça veut dire que on le développe pour une personne, mais cette personne n'est pas nécessairement traumatiquement liée à toi. Et dans le cas du narcissique, évidemment pas. Le lien traumatique, il va de la personne empathique vers la personne narcissique. C'est pour cette raison que j'étais bloqué dans ma relation. Sans le lien traumatique, je pense que je l'aurais quitté dès les premières semaines ou les premiers mois de la relation, si j'avais pas eu cet attachement maladif. Mais j'ai été embarqué dans cette montagne russe émotive, on peut dire, où dans les bons moments, je me rappelais de tous les mauvais moments. Les mauvais moments passés et les mauvais moments que j'anticipais. Et dans les mauvais moments, je gardais l'espoir d'un retour au rare bon moment. Vous voyez? Je peux même dire que j'ai voulu la quitter pendant la plus grande partie du temps que j'ai passé avec elle. C'est-à-dire, sur 3 ans de relation, je pense que j'ai essayé de la quitter pendant 2 ans et demi. Vous dites ça à quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose, vous allez le faire rire, quoi. Mais quitte-la, c'est tout. Quitte-la. Où est le problème? Tu l'as assis à une table, tu discutes avec elle, et puis tu la quittes, et c'est fini. Et tu fais ta vie. Et moi, c'est ce que j'aurais dit avant. Je pense que j'ai vu des gens qui étaient dans cette situation sans le savoir, et je comprenais absolument pas. Mais c'est une véritable addiction. Si vous essayez de rompre la relation, c'est comme vous arracher le cœur de la poitrine, quoi. Vous allez être physiquement malade, vous allez être mentalement bloqué. C'est impossible. C'est très 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 difficile. C'est pas impossible. C'est juste très difficile. Facilement, je pense qu'au bout de 6 mois de relation, j'étais déterminé à la quitter. Au bout de 6 mois, et après 2 ans et demi, parce qu'après 2 ans et demi que j'ai vraiment réussi. Et encore, les circonstances m'ont beaucoup aidé parce qu'on était séparés physiquement. Et pendant tout ce temps, j'imaginais dans ma tête, je m'imaginais libre, sans personne qui me contraigne à faire ce qui lui plaît, sans être constamment critiqué, sans crise, libre de faire ce que je choisissais au moment présent, sans peur d'être jugé. J'avais des espèces de fantaisies dans ma tête, comme ça, de liberté. Je me disais, ah tiens, là, si j'étais plus avec elle, je ferais ça et ça, tiens, c'est plus possible, un jour je vais la quitter, je serai libre et j'aurai plus ces critiques et j'aurai plus à batailler pour faire juste une petite chose que j'ai envie de faire. Je serai libre de parler avec qui je veux sans Sans crainte de me prendre une crise de jalousie après juste parce que j'ai échangé 3 mois avec une autre fille. Ouais, j'avais des fantasmes de retrouver mon identité perdue, ma vie d'avant, elle, et qui était que je considérais comme meilleure. Mais quand venait le moment de passer à l'acte, j'étais comme pris de panique à l'idée de la perdre. Je souffrais physiquement encore, physiquement et mentalement, et j'y retombais toujours. Je trouvais toujours une justification. J'aurais une meilleure occasion, hein, vous voyez. Un peu plus tard, une autre fois. C'est pas la bonne situation maintenant. Il faut que qu'elle fasse quelque chose vraiment qui me forcerait à la quitter. Il y avait toujours un moyen de repousser l'échéance, hein, de donner une nouvelle chance, de laisser un espoir. Ou même si j'avais pas l'idée de laisser un espoir, je me disais, bon, la semaine prochaine, je vais le faire. Je vais avoir le courage, il faut que je vais faire ça et ça et ça, et après je pourrai. Mais le moment venait jamais, c'était juste des excuses que je me fabriquais pour rester dans cette relation que je savais vouée à l'échec et absurde. Les gens autour de toi comprennent pas pourquoi tu ne quittes pas cette personne. Enfin, de penser, mettez-vous à leur place, c'est absurde. En ce qui me concerne, j'étais à l'étranger, donc mes amis proches n'étaient pas confrontés à ma relation avec mon ex. Mais bon, je sais que c'est presque impossible de trouver quelqu'un qui vous comprenne. Et la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui a vécu la même chose. C'est pour ça que je fais ce podcast. J'ai des amis qui m'ont écouté. Qui m'ont compris, mais une fois que j'ai raconté ça, je pense qu'ils comprennent, vous voyez, d'une manière intellectuelle, mais ils ne ressentent pas comme moi. C'est impossible, je ne leur reproche pas. J'ai une amie qui a identifié ça chez des proches à elle, et je pense que c'est celle qui m'a le mieux compris, mais. Mais malgré ça, je pense qu'elle continue à penser mon comportement comme absurde. Je crois qu'elle continue à penser qu'il y a une part de moi qui aurait pu faire autrement. C'est certainement vrai, mais je veux dire qu'elle perçoit pas vraiment le piège dans lequel j'étais tombé. Un piège qui est tendu par la narcissique et par moi-même ensemble. Hein, c'est comme les gens qui n'ont jamais été alcooliques, ils pensent qu'il suffit d'une bonne volonté pour lâcher la bouteille. Moi, j'en faisais partie. Mais après, c'est vrai que pour se sortir d'une condition, d'un trouble psychologique, il faut une volonté de la personne qui a ce trouble. Seulement la volonté a des entraves, hein, une addiction. Et puis, on n'est pas des êtres de volonté, c'est qu'on est habité par des forces qui nous dépassent. Et vous savez bien, on a tous été pris de colère et une fois que la colère est finie, on ne sait pas pourquoi on a été comme ça. C'est parce qu'on est habité par des personnalités qui sont hors de notre contrôle. Et en particulier une personne en proie à une addiction. Vu de l'extérieur, la personne en lien traumatique a un comportement absurde. Quitte-la une bonne fois pour toutes, hein, c'est la phrase qu'on entend. Ça paraît si simple de le dire. Mais oui, ils ne savent pas qu'on est en état de blocage mental absolu. Maintenant, vous comprenez, je crois, pourquoi beaucoup de femmes battues n'arrivent pas à quitter leur mari violent. Parce que moi, je raconte mes petites histoires d'abus sentimental, et c'est une grande blessure, mais bon, vous avez évidemment toute la femme, toute la masse des femmes battues. Et la plupart des cas de violence conjugale, c'est dû à un conjoint de personnalité toxique, alors, dont les narcissiques, mais avec d'autres troubles mentaux. Hein, vous avez aussi les psychopathes et les sociopathes qui ne voient pas où est le problème d'enfreindre les règles de la société. Et ils sont une partie plus importante de la population qu'on imagine. Hein. C'est inquiétant. Mais on connaît tous ces femmes battues qui restent avec leur mari violent. Elles ont développé un lien traumatique. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'on peut pas avoir un lien traumatique. Je le sais très bien, même si j'ai quelques cicatrices de griffures sur mes bras, j'ai eu. Mes dents ont un peu vibré de manière inquiétante quelquefois, les cheveux tirés. Mais en ce qui concerne la violence physique, je dois dire que moi-même, j'ai dû me retenir des fois de ne pas être violent, parce que on arrivait à des disputes qui étaient sur le point de tourner au physique. Ouais. Il y a eu quelques accrochages, mais ça aurait pu partir en vraie violence déchaînée. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours eu une retenue parce que, surtout quand on est un homme, il y a forcément une supériorité physique, mais je dois dire que, elle, quand il y avait des. Quand les échanges verbaux commençaient à être un peu physiques également, il n'y avait pas de retenue chez elle, oui. Parce qu'elle se sentait, je pense, comme ah, je suis la fille, je peux agiter mes bras aussi violemment que je veux, ou mes jambes, et si ça cogne quelqu'un au passage, c'est pas grave. Je pense aussi aux hommes qui subissent des violences physiques. Hein. C'est pas parce qu'on est plus fort physiquement qu'on peut pas être victime de violences physiques. Parce que les violences physiques, c'est pas à cause d'une supériorité physique. Pas parce que l'homme est plus costaud que la femme qui la bat, c'est parce que elle le laisse faire. Parce qu'une femme peut tuer un homme, c'est très facile pour une femme de tuer un homme. C'est pas parce qu'on est moins fort qu'on peut pas se débarrasser de quelqu'un ou lui faire extrêmement mal. Non, les femmes se laissent battre parce que elles sont victimes d'un lien traumatique. Et qu'il y a une. Je pense qu'il y a une représentation, une glorification de la violence chez l'homme qui n'existe pas chez la femme. C'est bien de se battre et on reproduit le modèle à la maison avec sa pauvre femme quand on a. Je sais pas. Bon, bref, passons. Donc, clin d'œil à tout le monde. C'est aussi ce qu'on appelle. Vous avez entendu l'expression syndrome de Stockholm? Ça, on l'utilise quand un lien se développe entre un otage et un preneur d'otage, ou un geôlier et un captif dans une prison. Le prisonnier qui se met à adorer le matin, vous voyez. C'est la personne qui a le contrôle sur vous et qui a les moyens. Dans le cas du syndrome de Stockholm, il a une espèce de souveraineté absolue sur vous. Il est la condition de tout votre plaisir et de toute votre souffrance. C'est le cas extrême de relations qui développent un lien traumatique. Vous êtes en prison et puis un jour vous avez un bon repas. Petit, tiens, comment ça va aujourd'hui? Et vous vous sentez, ah, lui, il est gentil avec moi. Puis le lendemain, on vous sort de votre cellule, on vous tape dessus, on vous met dans l'eau froide, et on vous rejette dans la cellule, et vous savez pas pourquoi, c'était aléatoire. Et un coup bien, un coup mal, un coup plaisir, un coup souffrance, et vous vous retrouvez à adorer la personne qui vous cause ça. Parce que c'est une addiction comme à une substance, parce que c'est un mécanisme inexorable dans notre cerveau. Il faut pas se dire que ah oui moi je suis fort mentalement non, on a plus ou moins tous le même cerveau hein. On est sujet aux mêmes catastrophiques limitations limite hein? On est tous terriblement limités par notre cerveau qui est incroyablement puissant et qui a les mêmes faiblesses. Des faiblesses terribles. Et qu'on n'imagine pas tant qu'on les a pas vécues. Bon, je m'éparpille là. Finalement, que penser de ça? Certains pourraient dire que c'est de l'amour. Ah, tu aimes tellement cette personne que tu ferais tout pour elle et tu vas te sacrifier pour elle, c'est ça l'amour? Quand j'y étais dedans, je me justifiais en me disant qu'il faut lutter pour souffrir. Il faut pas lutter pour souffrir, il faut lutter et souffrir pour l'amour. Qu'il faut faire des concessions. Je pensais quand même que la relation était bonne pour moi. Je me sentais coupable de vouloir la quitter. Je pensais que je m'étais assez amusé dans la vie et que maintenant je devais être plus sérieux. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui m'a convaincu de ça à force de le répéter. Elle me disait tout le temps, oui, mais tu as déjà 35 ans, tu t'es bien amusé, tu as eu des copines, tu es allé partout dans le monde, machin. Maintenant, tu dois passer à une famille et puis tu vas pas retrouver quelqu'un peut-être après. Voilà, c'est ce que je m'entendais. À force de l'entendre, peut-être que j'ai fini par croire que c'était vrai. Mais quand on est dans un couple, il faut être d'accord sur le mot amour. Il a une définition différente pour beaucoup de gens. Si c'est l'attachement maladif à une personne, alors oui, moi j'avais de l'amour. Mais je crois plutôt que l'amour, c'est quelque chose qui est bon pour celui qui le ressent. Pas quelque chose qui le détruit ou l'aliène. En tout cas, je veux définir l'amour comme ça. Parce que si c'est quelque chose dont on sort vidé, changé, blessé, c'est pas la peine de le considérer comme quelque chose de bien. C'est pas de l'amour seulement parce que les sentiments et les sensations sont fortes. Parce que peut-être que tu sens ça, je sentais, vous savez, quelque chose dans le cœur, ici, dans le thorax, une espèce de vague de sentiments comme ça, quand j'étais avec elle ou quand je pensais à elle. Et je me disais, waouh, alors. Et puis, l'énergie, vous voyez, de la relation, on se fâche, et puis après, on se réconcilie, on fait l'amour, et c'est intense, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a des grands rouleaux, des grosses vagues comme ça, en haut et en bas, que c'est de l'amour. Ça peut être un traumatisme, juste. Ça peut être une addiction, quelque chose de maladif. Pas du vrai attachement, de la compassion, vous voyez. Je pense que il faut de la dignité, du respect, de la compassion, de la paix surtout. Et de la paix, j'en avais absolument pas. Comment se sortir du lien traumatique? Hein, c'est un déchirement. Il faut se forcer vraiment. Ça va être douloureux, ça va être vilain, comme un accouchement. Bon, moi, j'ai jamais accouché, mais apparemment, c'est assez douloureux. Moi, je n'arrivais pas à dire les mots. Quand je l'ai quittée, c'était elle qui parlait. Elle me disait. Et puis, c'est quelque chose qu'elle me répétait toujours dans la relation. Ah, c'est ça, tu veux me quitter alors. Donc, tu veux finir. Donc, ça veut dire que c'est fini entre nous. C'est ça? C'est fini donc entre nous maintenant? Oui? Oui, ça m'est. Elle me tirait ça. Je sais pas pourquoi elle faisait ça d'ailleurs, c'est intéressant. Faudrait que j'y réfléchisse. Elle me tirait les mots de la bouche. Peut-être qu'elle voulait vraiment elle aussi en finir, je sais pas. Je crois pas. Je crois pas, elle faisait ça par manipulation parce qu'elle savait. Je pense que oui, elle faisait ça par manipulation parce qu'elle savait que j'allais dire mais non, ma chérie, mais non, je veux pas te quitter, enfin, je vais pas t'abandonner. Et c'est ce que je me retrouvais à faire à chaque fois. Je me disais, cette fois, je lui dis, c'est fini. Et puis elle me disait, Ah, donc quoi, tu veux me quitter, c'est ça? Tu veux m'abandonner? Tu veux abandonner? Tu veux me laisser toute seule? Et le jour où je l'ai quitté, j'ai dit qu'un mot, j'ai dit oui. Oui. Peut-être que j'ai rajouté c'est fini. Et puis j'ai raccroché, puisqu'on était à distance. Et voilà. Ça s'est fait comme ça. J'ai pas pu articuler les mots moi, quoi. C'était trop dur. J'étais. Je devenais bègue. Mais si vous avez passé le cap, je vous félicite en tout cas. Mais bienvenue dans un monde de regrets, de rumination, de doutes, de colère face au temps perdu, etc., etc. Vous allez vous réveiller en entendant sa voix pendant longtemps. Vous voyez, le cœur battant, prêt à faire face au premier conflit du jour. Moi, je me réveille encore comme ça des fois. Ah, je suis en panique et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi aujourd'hui? Ah non, rien, c'est vrai, je suis tout seul. À réfléchir à ce que vous auriez dû dire ou faire longtemps après la fin de la relation, on est toujours dans cet état d'esprit. J'y suis toujours moi. Et puis, quand le calme revient, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est fini. Je peux enfin penser à moi. Il y a des choses mineures qui vont, de petits événements qui vont vous rappeler une situation traumatique qui est imprimée dans votre cerveau. Et parfois causer une réaction physique même. Par exemple, dans sa langue, pour moi, le matin, on dit Nyata, bon matin, quoi. J'ai rencontré une personne qui parle la même langue et elle m'a écrit sur le téléphone, elle m'a écrit ce mot Nyatsa que je lisais tous les matins. Quand je l'ai lu, j'ai eu une montée de stress, vous voyez? Parce que ça veut dire bon matin dans cette langue. Mais cette langue, je l'utilisais, c'est le roumain. Et cette langue, je l'utilisais qu'avec elle, vous voyez? C'était ma langue intime avec mon ex. Et quand j'ai lu ce mot d'une autre personne, ça m'a causé un retour dans les situations passées et une grosse montée de stress. Des mois plus tard, après même un an de séparation physique, je ressens toujours le lien. Et je profite pas du tout de ma liberté aujourd'hui, comme je le fantasmais pendant la relation. Aujourd'hui, je n'ai plus à gérer ma relation avec elle parce que c'est fini. Par contre, tout ce que j'imaginais sur le jour où je serais libre avant, je le réalise pas maintenant. Je dois me forcer. C'est une période douloureuse, mais il faut le faire parce que nous sommes vraiment des êtres de paix, je pense. Les personnes à forte tendance narcissique sont eux des êtres de conflit. Ils s'en nourrissent. Ils vivent par le conflit. C'est quelque chose que je lui avais dit aussi sans comprendre. À quel point c'était lié à sa personnalité, je lui disais, tu aimes te disputer, je le vois, tu cherches le conflit. Tu le cherches et tu te sens bien après, quand ce soit disputé, après quand ce soit déchiré. Moi, je garde cette souffrance, je garde cette blessure, je garde une cicatrice à chaque dispute, et toi, ça va, tu t'es remonté. Tu t'es remonté le. Tu t'es chargé d'énergie. Et oui, parce que l'énergie, tu l'as prise de moi. L'expérience du lien traumatique va m'avoir marqué pour toujours, je pense. Mais je crois que nous pouvons en sortir grandi. On peut pas, c'est une leçon apprise de la pire manière possible, mais il ne faut pas essayer de changer le passé. Il faut faire avec la situation présente et décider de se relancer dans la vie armée de ce nouveau savoir, une vraie arme. Et il faut agir en accord avec ce que nous avons appris. On nous a donné les armes du savoir et il faut les utiliser. Il faut vivre dans le respect, la dignité, se rappeler que nous aussi on compte et exiger la paix, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Rappelez-vous de m'écrire. J'attends vos messages à l'adresse mail. Je vous répondrai avec plaisir et je fais ça pour échanger avec les gens également. Donc racontez-moi votre histoire. À bientôt.